Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous écouter sur Canal Académie. Yves-Marie Bercé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres nous parle aujourd'hui de Marie de Médicis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Une des reines dont la vie fut la plus mouvementée, en France en tout cas.
Elle a une vie effectivement prodigieusement aventureuse, on peut dire, malheureuse ou brillante. Elle a vécu, alors il faut préciser les dates, elle est née en 1573 à Florence et elle est morte à Cologne en 1642. Donc 67 années d'une vie assez longue pour l'époque et une vie mouvementée, illustre, puisqu'elle a été reine de France de par son mariage avec le roi Henri IV en 1600 et ensuite régente à sa mort, régente au nom de son fils, le jeune Louis XIII, avec lequel elle aura ensuite des démêlés politiques qui altèrent la fin de sa vie. Alors, on peut peut-être parler de son enfance, sa jeunesse. C'est donc une princesse de Toscane. Son père, Francesco Maria dei Medici, est grand-duc de Toscane, fils de Cosme Ier, qui est le premier à avoir pris le revendiqué pour les princes de Toscane le titre de grand-duc. C'est-à-dire que c'est une famille princière d'Italie qui est en ascension, qui vient d'affirmer son pouvoir politique. Elle est donc la fille du grand-duc et de princesse Jeanne d'Autriche, fille d'empereur, sœur d'empereur, qui a subi un mariage très triste. Son mari, duc Francesco, donc, l'a bafoué en vivant ouvertement avec une maîtresse vénitienne que l'historiographie dénonce, qui était fort belle mais certainement dangereuse, qui s'appelait Bianca Capello. Et la malheureuse Jeanne d'Autriche a mis au monde 4 enfants, dont cette petite Marie, qui s'est trouvée orpheline de mère très tôt. Sa mère est morte quand elle avait 5 ans. Son père, le duc Francesco, est mort ensuite en 1587. Sa sœur aînée, ses autres frères et sœurs étaient morts en bas âge. Sa sœur aînée a épousé le grand-duc de Mantoue, de sorte qu'elle était élevée solitaire dans le palais Pitti à Florence, où elle recevait une excellente éducation. Et simplement, orpheline, devenue nièce du nouveau grand-duc Ferdinand, qui avait accédé au pouvoir en 1587, elle était donc, on peut dire, un peu délaissée. Elle a reçu une excellente éducation. Elle connaissait les mathématiques, elle connaissait les sciences naturelles, était experte, dit-on, en bijoux, en pierres précieuses. Elle chantait, elle jouait de la guitare et du luth. Elle savait dessiner, donc elle avait des talents accomplis. Et puis, on nous le dit, les contemporains le confirment, et les tableaux également qu'on a conservés, elle était belle, superbe, selon les canons de beauté de ce temps. C'est-à-dire que elle était grande, blonde. En effet, du côté maternel, elle descendait des Habsbourg, des princes allemands, et sa grand-mère maternelle était une Jagellon, une princesse polonaise. Donc, elle n'avait pas le type italien. Elle était, au contraire, une beauté à la Rubens, c'est-à-dire avec un teint pâle et des grands cheveux blonds, véritablement éclatant. Alors, elle était certainement devenue en corpulente, elle avait un embonpoint, dit-on, remarquable, mais qui paraissait séduisant, en tout cas dont Henri IV s'était certainement satisfait. Elle l'a épousé assez tard, elle avait 27 ans. Elle représentait, pour les cours de l'Europe, un parti matrimonial très avantageux dans la mesure...
C'était la grosse banquière ?
Où les ducs de Florence... Alors ça, c'est cette expression qui est restée attachée à son renom, provient de sa pire ennemie, si on peut dire, Henriette d'Entragues, qui était une maîtresse de Henri IV et qui était jalouse de la femme légitime, la reine, et qui la, Elle l'appelait la grosse banquière. Alors, elle était effectivement l'héritière de l'immense fortune des Medici et sa dot avait été fort élevée puisqu'elle avait permis en partie de combler les déficits accumulés du trésor royal français à l'issue des guerres de religion. Sa dot montait presque à 2 millions de livres, dont environ 1 million payés au comptant, le reste étant extinction des dettes des prêts qu'ont consentis les Toscans au roi de France. Donc une dot extraordinaire, un mariage qui est avantageux pour toutes les parties, pour bien sûr la cour de Toscane qui envoie une de ses princesses à la plus grande cour de l'Europe, la cour de France, et puis pour le roi de France qui trouve là un support financier et une épouse désirable. Ce mariage est consommé à Lyon en décembre 1600. Et alors, il était temps aux yeux des Français, aux yeux des ministres de Henri IV, parce que les guerres de religion s'étaient achevées en 1598. Mettons, 1598, c'est l'édit de Nantes et la paix de Vervins. Mais dès 1596, en fait, il y avait eu des trêves et on s'orientait. Il n'y avait plus de grandes campagnes de guerre civile. Donc, dès 1596, les ministres du roi Henri IV, devenant peu à peu maîtres de son royaume, ces ministres s'étaient préoccupés de trouver une épouse, une reine, pour empêcher la tendance du roi à faire légitimer et couronner une maîtresse, ce dont il avait le pouvoir, mais qui aurait été un scandale moral
et
politique auprès de ses sujets, aussi bien catholiques que protestants, et un attrait ridicule vis-à-vis des autres chancelleries européennes. Donc, c'est un soulagement général dans l'opinion française et une consécration d'avoir une reine légitime, belle, superbe et prolifique, puisqu'elle va apporter 6 enfants en l'espace de 10 ans, puisque ce mariage est consommé en 1600. Henri IV meurt en mai 1610. En l'espace de 9 années, elle va avoir 6 enfants, un par an pratiquement, sauf entre 1603 et 1605, 1606, où les assiduités de Henri IV le portent plus vers ses maîtresses que va ce qui donne un certain répit à Marie de Médicis. Alors on a dit que la vie conjugale avec Henri IV n'était sans doute pas de tout repos, mais Henri IV lui-même, aux objurgations de ses ministres, notamment de Sully, qui cherchait à lui faire abandonner ses amours fugaces de maîtresse et scandaleuses, répondait que malheureusement la reine lui opposait, quand il l'a rencontrée, des mines chagrines et plaintives, alors que ses maîtresses l'accueillaient avec joie et le faisaient rire en lui racontant des bons mots. La malheureuse donc
Marie de Médicis
est donc amenée pendant ses périodes de vie conjugale à lutter contre la concurrence des maîtresses, et Sully, sur ses vieux jours, aurait confié à Richelieu, dit-on, enfin, c'est peu vraisemblable, mais enfin, le mot doit être retenu, que dans leur mariage, ils ne pensaient pas qu'il y avait eu plus de 8 jours sans des querelles entre les époux.
Il faut dire que c'est quand même beaucoup d'humiliation que d'être trompée publiquement, ostensiblement, comme elle le fut.
Voilà. Triomphe lorsqu'elle est régente. Je dirais pas du tout qu'elle se soit satisfaite de la disparition de son auguste époux. Vous savez qu'il y a eu des ragots, des rumeurs, l'accusant de toutes sortes de complots, de malédictions. Mais c'est ce qui a entouré la disparition brutale du roi Henri IV. Mais C'est, je dirais, c'est le type de rumeur qui entoure tout accident imprévisible dans le cours de l'histoire. Je crois qu'il faut les traiter comme des ragots. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir de 1610, devenue régente, elle assume avec autorité, avec efficacité, les pouvoirs qui lui sont dévolus.
Pourquoi Yves-Marie Berset, son temps de régence, qui avait été assez apprécié dans l'histoire immédiate, est devenu, au regard de l'historiographie, comme une période de troubles, décadente, et les accusations ont été bon train contre Marie de Médicis?
Alors, effectivement, ça tient, je crois, c'est l'avers, c'est le corollaire de la légende de Henri IV. Dans la mesure où elle lui succède, où elle succède à un roi qui entre dans la légende, comme étant le roi de la poule au pot, de la paix revenue, de la tolérance, de la concordance, il faut de nécessité qu'elle représente une sorte de contraste. Et puis, elle souffre de deux autres défauts, c'est qu'elle est une femme, et deuxièmement, qu'elle est italienne, qu'elle est étrangère. De sorte que l'antiféminisme français profond, qui est inscrit dans les institutions, dans la loi salique, et puis la xénophobie très forte, l'anti-italianisme, parce que les Italiens sont effectivement très nombreux depuis les guerres de religion, enfin depuis les guerres d'Italie, et depuis donc une bonne centaine d'années à la cour de France. Ce sont des grands seigneurs, ce sont aussi des parasites, des charlatans, des gens qui sont là à la cour de France parce que c'est la plus puissante, la plus riche de l'Europe, et qui attirent donc l'envie et les critiques. Alors je crois que voilà de toutes les raisons qui font que Marie de Médicis a été vouée à la réprobation, comme l'avait été Catherine de Médicis, comme le sera plus tard Marie-Antoinette. C'est la sorte de malédiction qui frappe les reines de France.
Ça n'a pas frappé Anne d'Autriche.
Alors Anne d'Autriche aurait pu succomber de la même manière, simplement elle a eu la chance, elle, de porter le pouvoir, la puissance de Louis XIV, de traverser une période beaucoup plus mouvementée d'ailleurs, beaucoup plus dangereuse pour le salut de la nation, de la période de la Fronde. Et c'est en quelque sorte la secousse, les ébranlements de la Fronde qui font que, par contraste, Anne d'Autriche, elle, a joui d'un prestige. Vous voyez, je crois qu'on peut faire une sorte de contraste entre les deux cas. Marie de Médicis est très bien tirée de la régence parce qu'il y avait des problèmes presque insolubles. Légués, qu'on le veuille ou non, par l'édit de Nantes. L'édit de Nantes était impossible à appliquer à la lettre, puisque le parti protestant, avec ses forteresses, avec ses pensions, avec ses armées privées, représentait un État dans l'État. Tôt ou tard,
politiquement,
il y aurait eu un choc militaire et politique à l'intérieur du royaume. Et effectivement, on a entre 1620 et 1628, sous le règne personnel de Louis XIII, un retour violent, prodigieusement sanglant, des guerres de religion que Marie de Médicis a évité, a retardé pendant tout le temps de sa régence.
Grâce à ses libéralités.
Grâce à ses libéralités, grâce à son habileté, grâce à son jeu d'équilibre. Et elle a su notamment désarmer les mécontentements par le recours à l'Assemblée des États généraux, qui était le moyen d'apaiser les tensions de l'opinion publique. L'instance des États généraux était encore vivante dans le fonctionnement de la monarchie française, puisque depuis 1560 jusqu'à 1614, 1614 représentait la cinquième séance, la cinquième tenue d'États généraux dans l'espace d'un demi-siècle. C'était donc un recours constant dans la pratique politique. Et c'était un recours habile et légitime dans la conception de l'époque, puisque c'était la manière de porter une représentation de l'opinion et d'engager des idées de réforme qui seront reprises. Ces États de 1614 ont pris des doléances, ont rédigé des décisions qui vont être reprises par l'Assemblée des notables en 1626, qui sont évoquées dans le testament politique de Richelieu, qui seront mises en œuvre beaucoup plus tard par Colbert. Donc, très curieusement, là aussi, les historiens se sont focalisés sur uniquement les aspects polémiques de l'instant, des querelles qui surgissaient entre les différents ordres, sans voir, au contraire, les aspects positifs de cette réunion et ces aspects extraordinairement novateurs. Et également, alors, une autre chose qui lui est reprochée, c'est d'avoir conclu des mariages espagnols, ce qui était le moyen de maintenir l'Europe en paix. Alors, c'est tout à fait paradoxal de voir, si vous voulez, l'écriture de l'histoire qui se fait a posteriori et qui reproche absurdement à un souverain d'avoir maintenu le royaume en paix, d'avoir écarté le recours à la guerre pendant au moins 2 décennies. Je crois que c'était le parti le plus sage, mais c'est cette sorte d'historiographie finaliste, laudatrice, si vous voulez, de la raison d'État, du fait accompli, qui, au XIXe siècle et puis au XXe siècle, a de représenter la construction de l'hexagone, qui devient l'hexagone national, comme une sorte de nécessité voulue par les astres, comme si l'Artois ou le Roussillon devaient être de toute éternité des possessions du roi de France. Une sorte de conception nationaliste naïve, la Belgique ou les cantons suisses ou la Catalogne ou le Piémont ont autant de légitimité que la monarchie française. Alors bon, je crois qu'il y a cette espèce de leçon du fait accompli qui a à son comble avec l'écriture de Michelet en 1867. La partie de l'œuvre de Michelet qui est consacrée au XVIe et XVIIe siècle est un triomphe, je dirais, de l'incompréhension des vrais enjeux de cette époque et des mentalités de fonctionnement des institutions. Alors c'est ce qu'a montré bien là un livre, une biographie récente de Jean-François Dubost, un historien très de grande valeur, non conformiste, qui a consacré à Marie de Médicis en 2009 un gros livre très bien documenté où ce n'est pas une entreprise de réhabilitation parce qu'il ne s'agit pas, c'est une autre erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Il ne s'agit pas de juger les personnages en noir ou en blanc. Il s'agit de voir quelles étaient les perspectives politiques qui s'ouvraient et de constater que cette décennie des années 1610-1620 va faire figure dans la postérité du XVIIe siècle de temps de prospérité, de joyeuseté, de moments où il y avait des fêtes, où le commerce marchait, un moment de prospérité, de vie pacifique qu'on ne retrouvera pas de longtemps, pas avant le courant du règne de Louis XV.
Peut-être qu'aussi, pour sa postérité, ce sont ses querelles avec son fils, avec Louis XIII, qui ont nui à cette régente.
Certainement, elle n'a pas prévu les insatisfactions de son jeune fils, devenu roi majeur à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire donc en 1614, et elle a cru pouvoir continuer à gouverner et par l'intermédiaire du maréchal d'Ancre, de Concini, d'origine italienne, qui lui fait même de sa personnalité de favori et d'étranger parvenu, devenait très facilement un bouc émissaire des mécontentements. Et en avril 1617, le petit Louis XIII a réalisé ce qu'on appelle un coup de majesté, c'est-à-dire un coup d'État du roi lui-même, dans les institutions de son propre royaume, s'emparant du pouvoir qui lui était dénié en faisant assassiner le maréchal d'Ancre, Concini, par Vitry, le capitaine de ses gardes. Et à ce moment-là, donc, la reine-mère est désavouée, elle est contrainte de se retirer au château de Blois, où elle va rester pendant un peu plus d'un an et demi, et elle s'en évade. Alors, il y a deux épisodes extraordinairement romanesques dans sa vie, on est obligé d'aller vite, mais voilà, en 1619, elle parvient à se sauver du château de Blois par une échelle de corde. Elle a 46 ans et elle est habillée donc comme une dame de ce temps, ce qui ne prédispose pas aux escalades. Et elle réussit donc à franchir les 40 mètres d'un mur éboulé, heureusement, par une brèche. Et en bas de la brèche l'attendent des gentilshommes qui lui font passer le pont de Blois et des carrosses, ensuite des cavaliers envoyés par le duc d'Épernon qui lui permettent de s'échapper et de se réfugier dans le château d'Angoulême. Alors, bien sûr, c'est une de ces péripéties de ce qu'on appelle les deux guerres de la mère et du fils, mais on ne peut pas raconter toutes ces aventures. En 1620, elle est parvenue, tant bien que mal, notamment grâce au conseil de Richelieu, qui est son homme de confiance, qui parvient à la réconcilier avec Louis XIII. Et elle va avoir, donc, entre 1620 et 1631, de nouveau, une participation directe, discrète, au pouvoir royal. Je dirais qu'on est là, peut-être à l'acmé de sa carrière. C'est à ce moment-là qu'elle va faire cette opération de mécénat qui l'a fait passer à la postérité à juste titre. C'est l'achèvement du nouveau palais du Luxembourg, situé à la lisière méridionale de Paris, à l'emplacement des domaines qui étaient de broussailles du couvent des Chartreux. Et elle fait construire donc ce palais par Salmon de Brosse, qui s'était fait connaître déjà par la construction du château de Monceau-en-Brie. Et elle fait décorer la grande galerie de l'aile ouest du château du Luxembourg par un peintre aussi déjà renommé dans toute l'Europe, Pierre-Paul Rubens, qui va, entre 1622 et 1625, composer les 21 tableaux d'une histoire de la vie de Marie de Médicis, tableaux magnifiques qui la font connaître à nos yeux contemporains. Cette splendide femme, superbe, certes grasse, mais empreinte donc d'une sorte de majesté. On tenait même qu'un double ou un triple menton était une forme de beauté.
Une majesté reconnue.
Majesté reconnue, voilà. Donc voilà, les 21 tableaux, allez les revoir au Louvre, de la vie de Marie de Médicis. Alors ce qui est intéressant, c'est que, enfin tout ça est passionnant, mais c'est voir que le lien avec Rubens va durer, puisque elle va retrouver Rubens dans les années de malheur, les années d'exil.
Oui, parce que c'est lui qui va lui prêter une petite maison à Cologne en 1642, où elle va mourir.
Certes, mais en 1631, après l'orage de la journée des dupes, qui se situe le 11 novembre 1630, et qui marque la rupture définitive avec le cardinal de Richelieu et la victoire politique de Richelieu et de l'affirmation de son emprise sur l'esprit, sur la volonté de Louis XIII. Marie de Médicis est exilée, là, comme elle l'avait été à Blois en 1617, cette fois au château de Compiègne. Et elle y reste assez longtemps et elle cherche à s'en évader. Là, elle tombe sans doute dans un piège, puisque les régiments qui contrôlaient les environs du château de Compiègne sont retirés, ce qui facilite son évasion. Or, on peut imaginer, sans trop de peine, que le retrait de ces régiments était en fait destiné à la faire tomber dans une faute politique, puisqu'elle va s'enfuir du château de Compiègne. Là aussi, il y a des carrosses qui l'attendent. Là aussi, il y a une anecdote plaisante, c'est-à-dire qu'on convainc les concierges du château que son départ dans la nuit correspond en fait à l'enlèvement d'une jeune fille de sa suite qui échappe à la mauvaise volonté de ses parents pour aller se marier secrètement dans un ermitage de la forêt de Compiègne. Alors, toute cette histoire galante est affabulée, mais elle correspond, c'est amusant qu'elle corresponde à l'imaginaire du temps. C'est ce que supposait croire le concierge du château de Compiègne. Alors, ensuite, des carrosses l'emmènent jusqu'à la frontière, ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols, ce qu'on appellerait aujourd'hui la Belgique ou le nord de la France, puisque sa première étape, c'est Aven.
Alors Yves-Marie Berset, justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu longtemps de cette période d'exil dont on parle pas souvent dans les livres d'histoire. L'exil qui va durer à peu près 10 ans.
Alors de 1631 à sa mort en 1642.
Cette mère de l'Europe a été un peu abandonnée, en tout cas par Louis XIII.
Mais la rupture est volontaire, c'est-à-dire qu'elle est tombée dans ce piège politique qui l'a fait représenter comme ayant choisi un dessein contraire à la volonté politique du souverain. Alors on imagine, on fait répandre le bruit qu'elle est dupe elle-même, bien sûr, de mauvais conseillers, qu'il y a une cabale de boucs émissaires qui l'ont entraînée dans cette regrettable erreur. C'est-à-dire que la propagande royale évite, bien sûr, d'incriminer la reine elle-même, mais ses biens sont séquestrés. Ses partisans, ses officiers, ses amis, les gens qui ont été en rapport avec elle, qui seraient restés dans le royaume, sont poursuivis, embastillés, poursuivis, condamnés à mort ou à des peines de bannissement. C'est une véritable persécution qui la frappe, elle, et qui frappe également son fils cadet, Gaston d'Orléans. Or, la France n'est pas en guerre à ce moment-là, et elle est réfugiée aux Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire à Bruxelles, auprès de l'infante Isabelle, et nous sommes dans une relation de paix. Alors, elle va là recevoir l'appui politique de deux personnages considérables qui orientent ses démarches diplomatiques à l'intérieur du jeu de l'Europe des princes. Et ces personnages sont Pierre-Paul Rubens, qui est beaucoup plus que... Enfin, c'est un artiste de dimension géniale, pluriséculaire, mais il est aussi un personnage qui est reconnu comme d'égal à égal pratiquement par les plus grands princes, par exemple par le Charles Ier d'Angleterre. Et il est ambassadeur de l'infante Isabelle et rempli des missions pour le compte de la couronne d'Espagne, puisque le rôle de Rubens, c'est d'essayer justement de parvenir à une trêve entre les Pays-Bas méridionaux espagnols, c'est-à-dire l'actuelle Belgique, et puis au nord, les Provinces Unies protestantes du prince d'Orange. Et le rôle de Rubens est effectivement très important. Un deuxième personnage qui est auprès de Marie de Médicis, comme Rubens, c'est un personnage beaucoup moins connu, mais très intéressant, qui s'appelle Balthazar Gerbier. Il était l'ambassadeur du roi d'Angleterre à Bruxelles, auprès des Pays-Bas espagnols. Il a été pendant 10 ans, et il avait un nom français parce qu'il était originaire, enfant de Huguenots français, passé en Angleterre à la fin des guerres de religion. Et il a représenté les intérêts de Charles Ier, et c'était un esprit supérieur, extraordinairement lettré. Il est mort en 1667. Après avoir été ambassadeur à Bruxelles, il a été chambellan de Charles Ier. Il s'est caché pendant la période de la Révolution anglaise, puis revenu en faveur à la fin de sa vie avec la restauration de Charles Ier. Et il a, comme Rubens, il détestait l'un et l'autre, il détestait Richelieu. Et c'était des gens qui travaillaient à une sorte de ligue opposée au dessein de Richelieu. Et effectivement, Marie de Médicis, exilée, ancienne veuve du grand roi Henri IV, régente du royaume de France pendant plusieurs années, se trouvait dans une position indigne qui était jugée scandaleuse par toutes les autres cours de l'Europe. Et c'était quelque chose qui était d'ailleurs Richelieu beaucoup plus que les menées subversives qu'auraient pu mener ses partisans à l'intérieur du royaume. Ce qui l'inquiétait, c'était le déshonneur, le discrédit qui frappait la couronne de France du fait du traitement réservé à cette reine-mère malheureuse exilée. Et c'était au point qu'en 1633, elle avait eu un accident de santé. Richelieu avait envoyé un gentilhomme à Bruxelles pour s'enquérir de sa santé. Et Marie de Médicis avait fait répondre que les persécutions du cardinal lui étaient plus agréables que ses compliments. Donc ça veut dire qu'elle ne se résignait pas.
Et elle ne manquait pas d'esprit parfois.
Elle ne manquait pas d'esprit. Alors, ce qu'elle aurait voulu esquisser, c'est ce qu'on appelait une ligue des gendres. Puisque, effectivement, ses filles, sa fille aînée Élisabeth avait épousé Philippe IV, celui qui allait devenir Philippe IV. Henriette avait épousé Charles Ier d'Angleterre et Christine ou Chrétienne avait épousé Victor Amédée de Savoie. Donc, il y avait trois princes souverains de très haut rang qui, par leurs ambassadeurs à Paris, on n'était pas encore en guerre, la guerre éclate seulement en 1635, intervenaient constamment pour demander au roi de France qu'il renonce aux mesures de violence, de persécution dont il usait vis-à-vis de sa mère. Donc Richelieu donc, est gêné par cet aspect politique qui l'angoisse. Alors bon, cependant, il est vrai qu'elle n'a pas de moyens, qu'elle n'a pas d'armée, qu'elle n'a pas d'écho dans l'opinion française, enfin tout au moins pas d'écho suffisant. C'est pas elle qui... Il y a d'immenses mécontentements contre la politique de Richelieu, mais ils ne sont pas incarnés spécialement par la cause de la reine-mère. De sorte que en 1638, elle va essayer de trouver un appui différent en dehors des Pays-Bas espagnols, des Pays-Bas méridionaux.
Elle va en Angleterre, là.
Elle passe en Angleterre. Alors, pour aller en Angleterre, elle passe à travers les Provinces-Unies, qui sont, à ce moment-là, répétons-le, en guerre contre les Pays-Bas méridionaux. Et son passage dans les Provinces-Unies est accueilli extraordinairement solennellement par les princes d'Orange et par les états généraux de Zélande et de Hollande, à la grande indignation, à la grande rage de Richelieu, parce que les Hollandais sont alliés des Français, traditionnellement. Or, c'est là l'idée qu'effectivement, il y a une Europe des souverainetés des princes dont participent les princes d'Orange, qui, bien que protestants, bien qu'ennemis des Espagnols, reconnaissent la dignité de Marie de Médicis et, bien sûr, le passage de Marie de Médicis, en fait, va aboutir plus ou moins indirectement à hâter la trêve qui interviendra tôt ou tard entre les Pays-Bas méridionaux et les Provinces-Unies, qui sera consacrée seulement en 1648. Mais en fait, les hostilités avaient cédé depuis longtemps. Alors, elle traverse donc les Provinces-Unies et puis elle s'embarque pour Douvres. Elle va séjourner tout de même 3 années à Londres, en Angleterre, auprès alors de sa fille Henriette et au frais de son gendre, Charles Ier d'Angleterre. Là aussi, elle est reçue avec honneur, mais avec embarras. Les princes, d'abord, elle n'a aucun moyen, donc elle va vivre comme elle vivait à Bruxelles au frais de l'infante Isabelle. Elle vit en Angleterre au frais de Charles Ier. Mais alors, elle rencontre là d'autres opposants à Londres. Il y a en effet, à Londres, des réfugiés protestants, au-delà de la chute de La Rochelle en 1628, le prince de Soubise est réfugié à Londres. Et il y a beaucoup de Huguenots qui sont ennemis de Richelieu et irréconciliables, et qui sont réfugiés à Londres. C'est quelque chose qu'on raconte assez peu, mais il y a tout un tas, là, un noyau protestant.
Une opposition français, anti-Richelieu.
Anti-Richelieu, qui est une opposition protestante.
Tout à l'heure, hors antenne, et on en parlera pour finir, cette émission sur le destin étonnant de Marie de Médicis, vous disiez qu'en fait, elle est morte 4 mois trop tôt, parce qu'elle est morte juste avant Richelieu, en juillet 42.
Lui... Alors voilà, elle avait quitté l'Angleterre parce que les troubles qui vont se concrétiser ensuite, aggraver avec la Révolution d'Angleterre, l'ont obligée de quitter Londres en septembre 1641. Elle retraverse de nouveau les Provinces-Unies. Elle remonte le Rhin et s'arrête à Cologne parce que là, elle est sous la protection de l'autorité puis des armes de l'empereur, de l'autorité impériale, cet empire romain germanique. Et c'est là qu'elle va être atteinte par une maladie qui ne survient juste à la fin de sa vie. Elle avait une vie, au contraire, assez de forte santé. Et elle meurt en juillet 1642. Richelieu la suivra dans la tombe en décembre 1642. Et on peut imaginer, si on fait de l'histoire fiction, que si elle avait survécu quelques mois, elle aurait pu revenir à Paris. Elle aurait... Là, ne fût-ce qu'ensuite, après la mort de Louis XIII, était accueilli en grande pompe. Mais bon, les événements ne sont pas passés comme cela. Il y a un mot de son publiciste le plus doué, le pamphlétaire opposé à Richelieu le plus talentueux, qui s'appelait Mathieu de Morgue, qui, rapportant la mort de Marie de Médicis à Cologne, rapprochait cet événement du culte à Cologne des rois mages, des trois rois qui sont supposés être enterrés dans la cathédrale de Cologne. Et elle disait, bien, elle aussi, mère de trois rois, venait à mourir à Cologne, mais les rois mages avaient suivi l'étoile de la Providence, tandis que Marie de Médicis n'avait suivi que des feux follets. Alors voilà, ce dernier mot prouve au moins le talent de Mathieu de Morgue, mais ce serait injuste de faire terminer la vie, le récit de Marie de Médicis sur cette note sinistre, parce que ce qu'il faut mieux comprendre, c'est comment ce destin malheureux a incarné une Europe des princes, des virtualités, de rétablissement de la paix, d'alliance entre les couronnes, dans le but d'une pacification, si vous voulez, du cap occidental du vieux continent. Et Marie de Médicis, indirectement, a servi même la gloire de la France, puisque cette reine en exil, vous voyez, était constamment honorée et respectée dans la mesure où elle engageait le prestige de la couronne de France.
Oui, donc elle a servi la France à plus d'un titre.
À plus d'un titre, indirectement à la fin de sa vie. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas un personnage mesquin et médiocre que beaucoup d'historiens ont voulu représenter.
Merci beaucoup, Yves-Marie Berset.
Merci.